mer, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 9 septembre 2006, c'est encore l'été, il fait beau, il fait chaud et vous écoutez la radio, comme tous les samedis, éphémère ou avec les magazines, c'est le supplément week-end, BD, cinéma, télévision, suivi du cahier, du sport, normalement après 13 heures des cacahuètes, non, des prunes, non, des pelures.
Des pruneaux.
Des pruneaux. Ouais, des pruneaux, coup de pied au cul, c'est ça, pour qu'on ouvre l'antenne, c'est ça?
Ouais.
Ouais, je crois à peu près. Alors, en tout cas, à partir de 15h du mix avec Big Bang, à partir de 17h, c'est du punk avec Vie d'ordure. Et à 20h, c'est de l'électro avec Last Hetero Experience. Et ensuite, eh ben, je ne sais pas ce qu'il y a jusqu'à 5h du matin. Je crois qu'il y a une programmation spéciale, mais je ne sais pas. Encore une fois, le Velada est mal renseigné ou...
Oui, au moins aujourd'hui, il y est le Velada. Il est rempli.
Oui, bon, la semaine prochaine, on n'aura pas de Velada, on sera en direct de Ramonville-Saint-Agne, une petite commune au sud de Toulouse, pour ceux qui nous écoutent en podcast, et puis voilà. Enfin bref, c'est le supplément week-end de Radio FMR, c'est juste pour vous dire bonjour!
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Enfin, en tout cas, avant nous, je crois que vous auriez eu du mal. Vous écoutez FMR, donc le podcast de Supplément Week-end, et aujourd'hui, eh ben, on va sortir des réalisateurs cultes, un réalisateur monstre et des bandes dessinées absolument géniales. Mais tout de suite, un mashup. Le Wu-Tang Clan avec du jazz Dixie.
Yo, feel the heat from the streets. I got to eat, talk what I walk. I stalk with bronze feet. Ancient spells, yell, do back sheet. Jump on the jam with 36 peak. Beat up the beat, overload, rap, treat, fix. Cape in the wind like the John Woo flicks. Now, flick, taste the spirit, crash more clearer. Sweat of the bite covers the man in the mirror. Kick down the door, unleash the terror fam. Crackling, screaming, crime, who I am. Studs, world grudge, eye on a tiger rap. Ruler rough, mind snap, fried as I trap. Beneath clothing, perhaps we going, the golden wise gone homes, blizzard unknown, visit the overbitten, got to live wild style with gun. To uplift the mind, boy, I'll bring out the sun. You're trapped in this rap, in this world bizarre, and you hit pretty hard in the city of frauds. To uplift the mind, and I heal your scars. Cause Chris told us more, we all shine the stone. Now you're trapped in the rap, the world bizarre, and you hit pretty hard in the city of frauds. To uplift the mind, heal your scars. Cause Chris told us more, we all shine the stone. Now, first of all, yo, we ain't no saints. Then we lay in the trench and rock the war paint. The same villain, scheme, pimpigate the rhythm, mean. My self-esteem, my 98 hit him. Spot blast, even though I shot last. The underdog stranger, super freak, hot blast. The hard drive rip is a hostile swing. Now swing my redemption with a fist full of sting. Swift with the gifts in the God body squad. It's not a myth, we defy all odds. Now arms for the stars, now top to the limit. But all in the all, be grateful to be living. While we work the muscle, we meditate the hustle. The serious the world, experience the struggle. To raise a voice, flavor, choice, steam. Redeem, prominent, now to dominate the scene. The grass more green, attacks be lean. The cliffhanger vaccine, man and machine. From round one, lay us down some. I won't stop the war till y'all drown in my drums. My traps in this raps in this world bizarre. And you hit pretty hard in the city of frauds. Now uplift the mind and I heal your scars. Cause Rich told us more, we all shine the stars. Now you're trapped in the rap, the world bizarre. And you hit pretty hard in the city of frauds. Now uplift the mind, heal your scars. Cause Rich told us more, we all shine the stars. Now, here come the rhythm, style that's moist. Now it's up from the hell with the olive oil voice. Now hurry my herd, very dirty within against sweaty rap wall, starving, robbing the wind out the gray blue sky. In the bright red birds from the pitch black city with the long length birds. Solar arms, solar truly to restore the herb's beauty. Brand me a beast now, kill me with the jury. What I tell on acapella, hell has no fury. No, a force has awakened, breath taking vengeance. Midnight power plant seeking the menace. My rest is best, living flesh, dry bone. My appetite destruction is official cyclones. Top bones, my throne. One shot deal, bigger hole, bigger stones, it's on now. You're trapped in this raps in this world bizarre. And you hit pretty hard in the city of frauds. You uplift the mind and I heal your scars. Cause Rich told us more, we all shine the stars. Now you're trapped in the rap, the world bizarre. And you hit pretty hard in the city of frauds. You uplift the mind, heal your scars. Cause Rich told us more, we all shine the stars. Now
c'est un excellent mash-up. Le principe du mash-up, c'est on prend deux disques qu'on aime bien et on les fait aller ensemble et ça cartonne. Il s'agit de DJ BC, qui est un DJ, je crois, canadien, qui donc a remixé un titre du MC Ugood du Wu-Tang Clan avec Rubis Brass Band, qui est un jazz Dixie, qui est un groupe de jazz Dixie très connu à la New Orleans, qui a commencé en 1983. D'ailleurs, ils sont de retour d'une tournée qu'ils ont fait avec trois dates complètes quand même à Los Angeles. Ils sont en concert ce soir à la Nouvelle-Orléans Downtown et vous les aurez si vous habitez à Miami. Et ben figurez-vous que ils sont pendant l'intermède, pendant un match de Super Bowl, pendant un match, excusez-moi, de football américain en intermède. Je crois que c'est le 28 septembre, mais je ne peux confirmer sous les yeux. Voilà. Sachez quand même qu'on a du monde en plateau. Oh, Sabrina qui prépare.
Bonjour.
Déjà. Bonjour.
Salut Sabrina.
Salut. Tu vas bien?
Oui, ça va.
On accueille aussi Manu qui est avec
Bonjour,
nous.
Bonjour Manu.
Bonjour.
Et du sport est également arrivé.
Et du sport qui est arrivé avec sa prog musicale qu'il a téléchargée. Là, je peux vous dire que sous les yeux, là, ça va. Ça va être chaud tout à l'heure. ça va être grave, ça va envoyer. C'est la partie musicale de du sport. C'est à partir de 14h. Le supplément week-end. Ah ma foi, que deviendrait-il sans son édito ? Oh bah rien, comme d'habitude. Mais n'empêche que j'ai quand même écrit un édito, et très mal écrit, comme d'habitude. C'est une catastrophe.
Mais non, on s'est tapé, c'est pas mal écrit.
Amis auditeurs, auditrices, comme certains bien-pensants et tenants d'une culture d'origine et de qualité française me l'ont déjà fait remarquer d'ailleurs, cette émission, le supplément week-end Radio FMR, n'est qu'un cheval de Troie pour les productions japonaises bannies de nos écrans depuis l'auto-dafé du Club Dorothée. Oui, heureusement qu'il existe une exception culturelle pour défendre les œuvres littéraires de Loana Petrucciani, les musicalités de Stéphanie de Monaco, les films de Gérard Krawczyk et l'immortalité de Valérie Giscard d'Estaing, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, pour cette émission, la rédaction du supplément Weekend sort son âme secrète, un réalisateur aux écrits emplis de sensibilité, aux histoires qui font fi des tranches d'âge catégorielles et des segmentations commerciales. Un conteur qui passe sournoisement des messages politiques rappelant les engagements qui portent le nom d'une l'ancienne capitale de son pays. Un enchanteur transformant les machines en êtres vivants et les larmes en rire. Un émerveilleur qui, sous prétexte de rêve, nous parle de futur, d'espoir et d'implication. Un studio aux œuvres tellement léchées qu'elles font passer n'importe quelle production disneyienne de ces 30 dernières années pour une mauvaise copie chinoise. Oui, nous allons parler d'une Japanimation qui sape la pluralité américaine et la pensée téléramesque en les ayant séduits. Heureusement, les ayatollahs de la culture française veillent. Certains sont là, debout et butés, fièrement, pour défendre une certaine bande dessinée de bon goût, une bande dessinée populaire, une bande dessinée accessible, une bande dessinée pas chère, une bande dessinée morale, qui respecte le maréchal, tel Jean-Christophe Menu, écotier à la police de la pensée, qui m'a envoyé cette missive. Je cite, ouvre les guillemets, « Va défequer ». Le débat s'élève et c'est tant mieux. Donc tout à l'heure, on va parler de Miyazaki. Double actualité cet été, puisque c'est la troisième semaine qui est dans les salles.
Oui.
Enfin une version complète de Nausicaa en France.
Oui, voilà. Car c'était déjà sorti, une version amputée, mais on en reparlera tout à l'heure.
Voilà, et donc le DVD de mon voisin Totoro, que l'on attendait depuis 99, depuis la précédente édition VHS chez Studio Canal. Du sport va lâcher son tronc d'arbre, je sais qu'il est en train de s'entraîner pour les jeux...
Les jeux seniors.
Non, c'est les jeux écossais. Où ils font des balancées de troncs d'arbres, des trucs comme ça. J'ai une news qui me concerne, tant pis, on va se passer à la bourre. Point de vue news, est-ce qu'il y aura un Spirou manga en série ? Parce que là, pour le 49e Spirou, il y aura un 49Z qui va sortir, où en fait un scénariste très connu de la bande dessinée française...
T'en as parlé tout à l'heure.
Voilà. C'est associé avec un japonais qui s'appelle Oshima Hiroyuki et qui lui a dit, est-ce que ça dirait de faire la bande dessinée de reprendre un personnage bande dessinée franco-belge, de les dessiner à ta sauce. Et il s'agit de Spirou. Alors lui, il a vu arriver les bouquins, il a dit, oula, je savais pas que c'était aussi vieux et tout. Ouais, le nombre de dessinateurs qui ont travaillé dessus. C'est en couleur. Ils ont mis du temps hein, quand même pour les sortir. Ils ont fait un spécial qui est original, qui va sortir la semaine prochaine dans le Spirou magazine. Il y a donc un dossier spécial là-dessus. En plus du Spirou qui était moitié bande dessinée française, moitié bande dessinée à la japonaise qui était sorti en début d'été. C'est mercredi prochain en kiosque. Et donc, eh ben, le prochain tome de Spirou, le 49, aura une partie manga. Et actuellement, il y a une interview dans le site Actua BD. Et on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose chez Dupuis. Ils sont peut-être en train de se dire, et si on faisait vraiment Spirou en manga, mais en série? Ah, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Du sport vient t'asseoir, c'est agaçant.
Non, mais après, il est en train de bricoler le ventilo pour me le mettre dessus. C'est génial. Merci du sport. Continue.
Je tiens à signaler qu'il y a un combat de t-shirt. Je vois un Kike Rider à droite, un motif
floral au milieu.
Non, c'est un rideau de douche donc au milieu.
Oula.
sac à gauche, et moi je suis quand même à la page, messieurs dames.
Oui, bon, ça va, toi, on sait que tu vas en Angoulême tout le temps et que tu as pu récupérer le t-shirt Totoro.
Voilà.
Y a un Mais film... on vous montrera les photos sur le site.
Vous cherchez Supplément Week-end MP3, Supplément Week-end Radio FMR, et vous aurez les photos. Il y a aussi un jeu en ce moment. Il y a un quiz qui concerne Doctor Who, du sport. Bon, tant pis, tant pis, on en parlera une prochaine fois. Il y a un film en ce moment aux États-Unis qui fait beaucoup parler depuis le 1er septembre dernier. Ce film s'appelle This Film Is Not Yet Rated, un film de Kirby Dick. Bon, le principe, c'est de savoir, quand on interdit un film au moins de 17 ans, quand on dit qu'il y a certaines scènes qui font la violence et tout, qui aux États-Unis fait ces classements et pourquoi ?
La MPAA.
La MPAA, oui, mais
c'est l'espèce d'écran vert que vous avez au début de chaque trailer. Trailer is approved by the MPAA.
Voilà, donc la question, c'était de savoir, mais sur quel est-ce qu'ils suivent vraiment leurs objectifs, ou est-ce que par hasard ils ne tricheraient pas un peu? C'est toute la question, et pour le savoir, eh ben, le réalisateur de ce film a engagé une équipe de détectives et a utilisé une méthode détective américaine, et les mecs ils sont complètement débridés hein, pour faire les enquêtes, c'est impressionnant. Et à côté de cela, eh ben, tenez-vous bien, il a envoyé son film à MPAA et a demandé à savoir est-ce que vous oserez rater ce mettre une note à ce film. Bon, alors la MPAA a d'abord dit interdit au moins de 17 ans for some graphic sexual content, c'est-à-dire quelques visions assez explicites de manière sexuelle. La bande-annonce est à hurler de rire d'ailleurs. Je te l'ai envoyé.
Oui, mais je l'ai pas vu.
D'accord, merci. On passe à autre chose alors. Tom, oui. Du sport.
Ça c'est fait.
Oui.
Du sport. Prison Break. Tu connais les scores?
Non.
Bon, ça c'est génial. C'est ce qu'il y a de bien avec Xavier, c'est que on dirait qu'on a un plan de prévu et en fait il passe revue de presse, ouais, ensuite Prison Break, ensuite MPAA, alors que moi j'avais quand même une revue de presse pour enchaîner avec toi et
oui,
tu l'as complètement zappé.
Mais c'est après. D'accord. Relancer pour
moi je fais un break. Parenthèse revue de presse improvisée, c'est bien.
J'adore la radio, surtout en direct. Figure-toi que Prison Break c'était une production HBO. Excuse-moi, Fox. Et c'était programmé dans le même créneau horaire que 24. Donc en fait, voilà. Et ça a fait un carton en France aussi. 25,6% d'audience, 5,5 millions de spectateurs. Juste devant TF1 et juste derrière France 2. Donc malheureusement, c'est de la merde et ça marche quand même.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment Brett Ratner. Il doit être content ce mec, tu vois. Ouais, mais néanmoins, bon, c'est vrai, j'avais pas cité ça la semaine dernière. Bon, vous avez vu, vous avez remarqué, hein, je l'avais pas dit. Hein,
oui, mais tu l'avais gardé de côté pour pas que ça fasse trop hardos, en fait.
Ouais. pour pas trop pourrir le Prison Break, quoi. Pour, qu'il y ait quand même un petit reste, quoi, tu vois, quoi. Que les gens aient quand même envie de voir ce que c'est, quoi. Putain, je me suis fait chier, jeudi. Je me suis endormi devant, quoi. C'est pas des conneries, quoi. Mais j'étais fatigué aussi.
Eh, ça va, t'aurais pu regarder Saga avec Fela Difama.
Non. Mais bon, donc produit par Brett Ratner et qui a réalisé le pilote, hein, le premier épisode. Mais pour contrebalancer, on peut dire qu'il y a également au générique, vous avez pu le remarquer si vous lisez attentivement les génériques, producteur conseil. Alors là, il y avait de tout. Hein. Normalement, il y a les producteurs exécutifs, il y a les producteurs, je sais pas quoi. Et là, il y a producteur conseil. Et bon, c'est pas n'importe qui parce que c'est madame Martine Oxon qui a été coproductrice avec Joss Whedon de toute la série Buffy et qui a été vraiment plus impliquée dans la série sur les meilleures saisons. De toute façon, il y a pas de problème. Alors respect quand même, elle a également fait une autre série qui a pas tellement bien fonctionné vu que ils ont réussi à développer 12-13 épisodes, ça s'est tourné, ça s'est vu vite fait à la trappe. Mais par contre, bon bah OK hein, c'est quand même une nana au vu d'un interview que j'ai pu lire d'elle qui a pas l'air complètement conne du tout. Donc bon, pour contrebalancer avec la connerie assumée de Brett, il y a pas de problème. Martine Oxon hein, remet un petit peu les pendules à l'heure. Mais enfin bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin bon Moi, il y a encore un truc qui m'a super choqué. Il était un petit peu plus transparent dans les premiers épisodes. C'est le directeur de la prison, interprété par Stacy Keach, hein, avec son histoire de Taj Mahal et tout, quoi. Mais là, bon, bah, ça devient de pire en pire et tout, quoi. Je me demande pourquoi il s'est pas mis à râler, Stacy Keach, à se dire, ouais, mais putain, c'est quoi ce rôle de tapette que vous faites? C'est pas possible, mais c'est quoi ce truc, quoi? Non, non, rien. Il est là, et puis il assume, tranquille, hein. Remarque, son compte en banque, pour sa retraite, doit être sérieusement garni. Tant mieux pour lui, hein. Remarque, tant mieux pour lui, quoi.
La semaine prochaine, supplément week-end, n'est pas en direct des studios, mais en direct du 19e festival de rue de Ramonville. Et tout à l'heure, on va parler d'un truc qui fait coucou. Non, ça a pas marché.
Non, c'est pas le truc qui fait coucou, c'est.
Enfin, Anne aurait dû me sauter dessus, normalement, je sais pas, elle est passée derrière, elle a rien dit. Elle est en train de hurler quelque chose, j'ai pas entendu. On repassera la bande tout à l'heure en antenne pour réécouter la boîte noire. Sachez donc que la semaine prochaine, nous serons en direct du festival de rue de Ramonville, qui s'annonce assez exceptionnel avec, par exemple, je l'ai ici.
Oh, alors.
Le programme.
Non, il est pas chez toi.
Ouais, voilà. Bah merci. Voilà, mais je l'avais foutu en triple sur le plateau. C'est le mien que je pomme. C'est génial. Jörg Müller qui joue en fait avec des bars de composites et fait la musique avec eux. Il y a Stuffed Puppet Theater qui c'est en anglais, c'est une revisitation en fait de Molière avec des poupées qui à mon avis ça a l'air pas trop mal. Il y a le théâtre Nucléo, il y a le Boustrophédon, ex-compagnie remise à neuf, Mécanique Vivante qui fait beaucoup parler d'eux, c'est-à-dire ils font des concerts dans toute une ville avec des concerts avec des sirènes de l'alerte civile. À l'approche du entre le 11 et le 21 septembre, à mon avis, ça va faire du bruit. C'est clair. Il y a The Weather Show où en fait c'est des gens qui s'amusent avec la météo toute britannique. Ça a l'air d'être assez Monty Pythonesque et plein d'autres choses. Donc voilà, c'est du spectacle de rue. On en reparlera la semaine prochaine puisqu'on y sera.
Ouais.
Voilà. Et il y a Eric Stalner qui sera en dédicace vendredi 29 à Virgin pour La Liste 66, la nouvelle série, et La Croix de Cazenac, le tome 8. La revue de presse.
La revue de presse, ben oui, on y vient parce qu'il y a Jet Li couvert de sang avec un sabre, c'est alléchant quand même. Bon, alors c'est Madasia, c'est le magazine du cinéma asiatique, c'est le numéro 5, toujours 5,90€ dans les kiosques, et c'est y a un spécial autour du nouveau film de Jet Li, Le Maître d'Armes, réalisé par Ronnie Yu. Et alors dedans, il n'y a pas que du Maître d'Armes avec Jet Li, il y a aussi un classement des 20 meilleures scènes et films martiaux. Il faut savoir que c'est un classement sur les films martiaux uniquement à point nu. Pas avec des sabres, donc voilà, ils ont un peu fait une entorse avec une fois en Chine, mais quand même c'est surtout les films d'arts martiaux purs.
Putain de puristes là.
Voilà. Voilà.
On a parlé d'arts martiaux tout à l'heure en BD.
Voilà, et il y a aussi un dossier sur, un article sur Ichi the Killer qu'on avait déjà chroniqué sur cette antenne puisqu'on l'avait découvert au Festival Extrême Cinéma, et un dossier assez sur un film assez improbable qui s'appelle Calamari Wrestler.
Et énorme, les photos.
Alors, du sport, tiens.
Les photos, c'est difficile de ne pas hurler de rire.
C'est l'histoire d'un catcheur calamar. C'est un calamar qui fait du catch, donc on voit des photos à l'intérieur avec le calamar qui fait ses courses, le calamar qui pose. Il a en plus des tennis, les chaussures de boxeur et tout. Et il y a aussi, à la fin, il affronte aussi une pieuvre rouge sur le ring. Et d'ailleurs, il y a une interview aussi du réalisateur Minoru Kawasaki. Et puis à la fin, de l'interview, ça finit par donc il parle des acteurs connus dans le film, etc. Et puis, entre parenthèses, dans de la rédaction, nous avons été incapables de traduire la phrase suivante et sa signification profonde restera un secret connu seulement de Monsieur Kawasaki, un peu à la JCVD. Nous vous la livrons donc telle qu'elle. Et là, unlike Calamari Wrestler and Executive Koala, the crab is just a crab, that's the point. Only to a crab, miso is the point and the point is the miso. Kenny Goalkeeper est donc le film définitif de la série des animaux absurdes. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il a pas fait que un film sur le calamar, il a fait un film avec des koalas, il a fait un film avec plein d'animaux, il y a un qui arrête des... je vais le retrouver. Comment vous avez une idée de Calamari Wrestler? Je regardais un film anglais nommé Lobster Boxer et j'ai souvent eu une idée.
Lobster, en fait, c'est une écrevisse, voilà.
Voilà, donc en fait c'était un film anglais où il y avait voilà un homard qui était gardien de but. Donc Madasia numéro 5, 5,90€ si vous voulez rire. Il y a aussi un gros dossier sur le réalisateur des films de Jackie Chan, Stanley Tong, un dossier aussi sur les remakes indiens de films à succès hollywoodien. Ça c'est assez rigolo parce que par exemple t'as les des tronches des acteurs là-bas qui ont souvent soit ils sont des cabots ou alors ils ont aucun charisme. Ça c'est marrant parce qu'il y a des photos comparatives entre Gajini qui est sorti en 2005 en Inde et le film Memento de Christopher Nolan. Alors tu vois les plans pour plans, c'est assez rigolo.
Ah ouais. Ah ouais.
T'as aussi ils ont aussi reméqué Léon. Et voilà, plein de films, il y a The Killer, etc. Quelque chose de thé comme ça, c'est toujours un régal de lire Madaza, il y a toujours des perles. Voilà.
Il est midi 20 sur la poubelle de radio, Radio FMR, une radio qui sait recevoir les animateurs du supplément week-end, puisque l'émission qui était hier soir a pensé à laisser de l'eau pour les gens qui... Parce qu'il fait chaud quand même aussi.
C'est très radiophonique ce que tu fais.
Ouais, ouais.
Non,
tiens,
merci, ça va.
Tiens, t'es sûr?
Non, c'est pas de l'eau, ça.
T'es sûr? Pas du sport, avis personnel?
Non, non.
Bah, je sais que la vodka Aristov c'est de la merde, mais quand même, avec le coca premier lot, ça passe tout à fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va passer avec la bande dessinée de suite. Regardez, là-haut, est-ce un avion? Un oiseau? Non! C'est une mini-série! Il s'agit de Superman, une entité secrète. Le deuxième tome vient de sortir dans la collection Panini Comics, dans la collection DC chez Panini Comics, sur un scénario de Kurt Busiek et un dessin de Stuart Immonen. On vous en a déjà parlé, c'est une série qui nous a fait kiffer.
Ouais, ouais, tu me le passes direct de toute façon.
Il est devant moi! Il est devant moi, il va falloir que tu me passes sur le corps avant.
C'est un aide.
Merci. Superman Identité Secrète, donc c'est la fin d'une mini-série absolument exceptionnelle, où on se pose des questions comme le nom fait-il le super-héros, l'habit fait-il le moine? Bah non, c'est pas pour répondre à ces questions hautement philosophiques que fut écrit cette histoire complète, mais juste pour reprendre une idée trop brièvement exploitée, un univers où Superman n'existe que comme personnage de fiction dans les comics et où Clark Kent n'est qu'un enfant de la Terre parmi les autres. Voilà, l'histoire de ce petit homme est celle d'une tragédie de parents portant le dit patronyme Kent, ayant eu un garçon et qui trouvèrent spirituel de prénommer Clark. La fine plaisanterie, je vous laisse imaginer les dégâts. À chaque anniversaire, on lui offre des cadeaux de la licence DC Comics, genre Panoply, réédition d'aventure de l'âge d'argent, poster, bref, la totale, le genre de truc qui le gave à laisser prendre la poussière dans le grenier. Oui, mais miracle de la planche à papier, voici qu'à son adolescence, Clark Kent découvre qu'il a vraiment des pouvoirs dignes du dit super-héros. Plus rapide qu'une balle de revolver, plus puissant qu'une locomotive, capable de bondir de gratte-ciel en gratte-ciel d'un simple saut. Que faire quand on a l'opportunité des pouvoirs du vrai? Faire comme les héros de fiction ou finalement ne pas se mêler des malheurs des autres? Clark Kent sera finalement un Superman qui ne se montrera pas trop, étant soigneusement documenté par sa collection sur les dangers de la convoitise de tel pouvoir. Depuis l'école maternelle, les copains, puis plus tard les collègues, sont de véritables poulets. Ainsi, quand Clark Kent est entré comme journaliste au prestigieux New Yorker, s'il vous plaît, des amis lui offrent l'occasion de rencontrer une fille qui est forcément amoureuse de lui, puisqu'elle s'appelle Lois. Une de
Bravo
plus.
Les amis.
Sauf que celle-ci va elle aussi rire de la plaisanterie trop facile, et les deux vont se trouver des affinités. Au point que Clark Kent va expliquer à la Lois Lane qu'effectivement il a vraiment les pouvoirs et que des fois, après un papier sur la sociologie des mythes urbains ou les conséquences géostratégiques des interventions humanitaires, bah, il lui arrive aussi de sauver le monde. Allez hop, comme ça, entre la poire et le dessert. Évidemment, le gouvernement souhaiterait mettre la main sur ce mystérieux super-homme, car il s'est quand même fait remarquer. Il va finir par collaborer très occasionnellement avec la CIA dans l'idée que sa famille sera ainsi préservée. Bonne chance, mon cher ami. Reste une angoisse. Y a-t-il un Lex Luthor dans ce bas monde? Fin de cette mini-série étonnante avec un homme d'acier aux écrits lus dans les universités. Et alors? Et alors? Et alors?
Superman est arrivé sans se presser.
C'est bien, il y en a qui suivent. C'est Kurt Busiek, Stuart Timonen, Superman, identité secrète, tome 2 sur 2, c'est chez Panini Comics dans la collection DC, et ça vaut le coup, oui, du sport.
Ouais, je veux signaler qu'en ce moment en kiosque, on peut trouver pour à pas cher, mais à pas cher du tout, je crois que c'est 2,95€, hein, tu sais, dans les séries à pas cher, ils te proposent le premier numéro à un prix défiant sur toute, défiant toute concurrence, mais après, quand t'achètes les autres, ça devient un peu plus cher. Et là, bah, il est sorti justement premiers dessins animés de Superman réalisés par Max Fleischer,
c'était le frère.
Richard, c'était l'autre. Ouais, ouais. Max Fleischer, donc le créateur également de Popeye, de Superman. C'est lui qui a également fait les dessins animés. Et donc on voit les, il y a 8 épisodes. Hein, c'est des petits épisodes de format dessin animé. 5-6 minutes. Hein, chaque fois, il y a une petite histoire avec le fameux générique. Xavier vous a fait juste avant plus fort qu'une locomotive.
Je dois la voir,
Superman.
Là.
Bon, malheureusement le truc c'est bon, c'est des versions françaises. Alors c'est pas Lois Lane, c'est Louise Lane entre autres quoi. Mais ce qui est assez rigolo hein, c'est de voir le contexte dans lequel ça s'était fait. C'était en pleine guerre et puis bon ok hein, les méchants c'est forcément des nazis avec un super accent.
Oui, mais c'était
ou
avant
des,
que
japonais saboteurs avant qu'ils rentrent en guerre. Mais quand même déjà il y avait hein, c'était petit antagonisme qui existait. Et bon, par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est que bon, ben, des fois, les copies, les dessins qui sont très sommaires, je veux dire, sont très assombris. Enfin bon, c'est pas des copies qui sont terribles. Hein. Des fois, on a bien du mal à distinguer ce qui pourrait être un immeuble ou un petit truc comme ça. Bon, enfin bon, c'est passable, je veux dire, pour 2,95€, ça vaut le coup de d'y jeter un œil, hein, de toute façon. Enfin bon, c'est les premiers Superman.
Je l'ai.
Ah, le voilà. Le voilà.
Speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound.
Look, up in the sky.
It's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands. And who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way.
Et à noter que sinon, ceux qui ont le net et qui sont très bons en anglais peuvent le charger gratuitement et librement sur archive.org. On mettra les liens, il y a tous les épisodes. Et
ah ouais, c'est des vieux trucs, c'est tombé dans le domaine public, hein.
Oui,
c'est pour ça que
fait.
C'est à pas cher, hein, de toute façon, quoi.
Donc voilà, donc Superman Identité Secrète, la fin de la mini-série, absolument exceptionnelle, en librairie. Fait chaud. Tu veux
plop,
de l'eau?
Plop, plop.
Tu veux que c'est de l'eau? Bah, non, c'est bon, c'est bon.
Olivier Supio, les aventures oubliées du baron de Munchausen, le tome 1, les orientales, collection Equinox chez Vent d'Ouest. Olivier Supio, c'est le créateur de Marie Frisson, vous savez, la petite fille en tutu bleu, manière Alice au pays des merveilles, qui à l'occasion d'un rêve et se retrouvait coincée en plein milieu de la banlieue ouest de l'enfer. Oh, Olivier Supio nous livre ici une nouvelle série graphiquement géniale basée sur le célèbre baron fantasque dont le château est occasionnellement sert de reposoir pour une équipe de France qui ferait mieux des fois de se calmer un peu. Est-il un aventurier dont les caprices de la vie lui font découvrir mille et une bizarreries de notre vaste monde? Ou un conteur talentueux dont les boniments sont si inventifs que finalement on aimerait bien y croire? La question, insultant particulièrement cruel, se la pose car il a justement le baron de Munchausen emprisonné dans ses geôles. Libre à lui de ne pas mourir la tête tranchée s'il raconte une de ses aventures extraordinaires, mais sans mentir, attention. Et il n'aura pas mille une nuits, mais une seule soirée pour se montrer convaincant. Vous savez déjà comment il a chevauché un boulet pour aller sur la lune, comment il a terrassé d'immenses monstres. Mais dans cette histoire, on apprend que le très âgé héros a la nostalgie de toutes les filles qu'il a courtisées. Oui, il a courtisé plein de filles, et il n'y en a qu'une qui lui revient régulièrement. Et celle-là, il n'a pas trop envie de la courtiser, il s'agit de la mort. À rejeter étant le meilleur moyen qu'il a trouvé pour l'éternité. Finalement, l'éternité, est-ce que c'est vraiment une vie ? Attaqué par un gigantesque serpent de mer, échoué sur une île déserte face à un être d'une taille démesurée, capturé par les vendeurs d'esclaves. Oh, peu importe l'ordre, puisqu'il fuit toujours ses compagnes de la nuit et de l'au-delà. Et après... Et ben après, Olivier Suppiot nous entraîne dans une histoire fantasmagorique, avec autant de talent à l'image qu'un Terry Gilliam. Ses peintures littéralement superbes et saturées en couleurs nous font plonger dans un monde onirique, aux aspects brumeux et mystérieux comme les histoires du dit baron de Munchausen. Le lecteur est littéralement pris dans les raies de l'intrigue, tout comme le sultan à l'histoire, mais sans ses jeux cruels. Les aventures oubliées du marron de Munchausen, le tome 1 s'appelle Les Orientales, c'est par Olivier Suppiot, c'est édité dans la collection Equinox chez Vent d'Ouest, et...
C'est beau.
Bah en tout cas, ils sont scotchés à côté.
Oui, si on pouvait avoir l'avis des plasticiens à côté, là, ce serait pas mal.
Oh bah y'a rien à dire, c'est superbe.
C'est superbe, d'accord. Et elle, délicatement, il tourne les pages, et tout, c'est... Pff, ouais.
Justement, je voulais rajouter un truc, parce que j'ai regardé un reportage sur la 5, justement, les infos. Très intéressant, par ailleurs, du dessinateur
Olivier Suppiot.
Voilà, Olivier Suppiot, qui racontait justement comment il était venu à créer, enfin, à reprendre le personnage du baron. Et très intéressant, justement, parce qu'il est allé récupérer les archives, parce qu'il a existé, ce baron, et qu'il s'est devenu une légende. Et justement, il y a des contes qui ont été écrits. Et il a repris ces contes-là pour faire sa BD.
Et bon, alors, il travaille à la peinture en format.
Là, il y a des inventions et tout le reste.
Format raisin, plus que raisin d'ailleurs.
Mais surtout, c'est un grand garçon qui est tout timide et tout, et étonnant. Et étonnant, il est vraiment agréable à rencontrer et tout. Enfin bon. Ça, je ne veux pas en rajouter plus. Et puis voilà, on enchaîne peut-être. Ah, c'est de la bande dessinée chinoise traduite chez Qiaopan. C'est Liyad qui nous raconte la quête de l'esprit céleste. Le premier tome vient de sortir. Il s'appelle L'élixir d'immortalité. Ça va, il y a cette chinoiserie là derrière.
Et il y a Sabrina qui dit que c'est Chihiro le fond.
Gagné.
c'est pas chinois, hein.
C'est
japonais.
C'est japonais, oui, je sais. Mais tu me casses tout. Bon, disons que ton papa est l'un des grands maîtres du kung-fu, tu vois. Tu vois, Thomas, disons que ton papa, c'est du sport. Et que même, c'est le chef et tête de file d'une des deux factions rivales du kung-fu, tu vois. Et toi, en tant que fils à papa, assez riche, t'aimerais faire comme les copains, faire du skate, taguer les murs et jouer à la PlayStation. Alors, ce qui est chiant, c'est que papa, il veut absolument que tu reprennes la tête de la boîte familiale, hein, et puis kung-fu, et kung-fu toute la journée, quoi. Ah bah, c'est tout le malheur de Chiao Wei. Il adore s'éclater en ville avec une planche à roulettes de son invention, semant la destruction et l'hilarité générale dans le centre-ville. Un engin qui, théoriquement, va lui permettre de surfer sur les nuages, un peu comme les dieux, lui conférant, théoriquement, l'immortalité. En attendant, il se fait quelques rides en ville, mais son père, cheval d'or céleste, ne l'entend pas de cette oreille, ni de l'autre, ni de nulle part d'ailleurs. En fait, il est particulièrement excédé par son crétin de fils. Cheval d'or céleste est même atterré que son fils soit une brêle intersidérale en arts martiaux, une vraie honte qui préfère s'exercer son kung-fu sur Street Fighter 4, ce qui ne compte pas, ou chatter sur internet, ce qui n'a rien à voir, surtout que ça fait désordre dans la Chine médiévale.
Street Fighter 4, ça n'existe pas, hein.
Ouais, mais dans la Chine médiévale, peut-être que c'est sorti.
D'accord.
Lassé de l'éducation old school de son père, le sale gosse préfère fuguer et trouver un esprit céleste pour y prendre des cours particuliers directement, qui vont sûrement lui coûter bonbon. Mais d'abord, il faut trouver un esprit céleste. Et où vivent les dieux? Sinon, dans les grottes des très hautes montagnes du Faucon de Bronze. Exactement dans le territoire du clan de kung-fu adverse. Cela s'appelle se jeter dans la gueule de dragon déjà enduit de sauce aigre douce. Heureusement, il aura une aide totalement inattendue. C'est une série absolument à hurler de rire. Décalage, anachronisme, humour speedé, dérision, parodie, le massacre iconoclaste sur les traditions chinoises est une merveille. Et c'est se rendre le complice d'une impertinence que d'en rire. Oui, bon, vous voyez pas trop le rapport, mais en fait, je tenais absolument à caler dans ma conclusion de ma chronique un proverbe chinois. Bon, c'est complètement loupé, je suis désolé. La quête de l'esprit céleste, le tome 1, s'appelle L'élixir d'immortalité, c'est chez Tiao Pan et c'est de l'IAD. On va faire la chronique de Miyazaki ?
Bah ouais.
J'ai une curiosité.
Ah, une curiosité. Rassure-moi, ça va pas être chinois cette fois.
Merci. J'ai pas le compteur.
C'est Nausicaa.
Kaze no Tani no Nausicaa. Effectivement, c'est la bande originale en J-pop, puisque c'est ce qui est utilisé en promo dans les radios et à la télévision pour annoncer le film. et on l'entend pas dans le film.
Mmh. Oui, parce que sur le plateau, entre celui qui se souvenait de sa liste iTunes et qui n'arrivait plus à mettre un nom sur le morceau, aux autres qui sont allés voir Nausicaa et qui l'ont pas reconnu, mais normalement, si c'est Nausicaa, on aurait dû l'entendre dans le film.
Faut dire que j'ai été assez vicieux puisque sur la fiche d'émission.
Oui, tu l'as marqué en japonais.
Voilà.
Et heureusement que dans le refrain, il dit Nausicaa.
Pardon, voilà.
Donc, qu'est-ce que j'ai gagné ?
Le droit de faire ton introduction.
Génial.
Vas-y, bah, cache ta joie.
T'as pas le jingle ?
Si, si.
Putain, il faut tout lui dire. Hein.
Ok, d'accord. Allez ! Le dossier vous est présenté en Dolby Surround mono par Thomas.
Alors, à l'occasion de la sortie du film Nausicaa, la Vallée du Vent, sur nos écrans depuis, on l'a dit tout à l'heure, sorti depuis 3 semaines déjà, évidemment pas beaucoup de salles d'ailleurs, une salle unique à Toulouse. Ben on va peut-être vous parler avant de la carrière de Hayao Miyazaki, son réalisateur, et là je compte surtout sur mes collègues... sur mes collègues à côté de moi. Alors déjà, Miyazaki, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ceux qui se tiennent un peu au courant de l'actualité cinéma, tout court même, pourront savoir qui c'est. Bon, il y a beaucoup de films qui ont été réédités aujourd'hui et qui sortent au cinéma, puis en DVD. Alors, pour ceux qui savent pas qui c'est, on va sortir quelque chose. Alors, c'est un mec quand même qui a créé pas mal de créatures vachement bien. Si on sort, ça...
Téchabus.
Oui, Téchabus. Oui, tiens, Téchabus.
Attention, train express. Ça tourne à la bataille de peluche.
Chacun son Chabus. Voilà, c'est...
Je veux retrouver mon Chabus, moi.
D'accord.
Oui, c'est Chabus de Sabrina, en plus. Mais, Bon, arrêtez de vous lancer des Chabus. Donc, Miyazaki a créé pas mal de créatures vachement mimi, notamment surtout Totoro, et puis plein de petites créatures dans le... Ah, alors mince, il y a un Totoro aussi.
Oh,
Itoudou. Itoudou.
Voilà, donc en fait à la répétition, j'ai testé avec Anne, et effectivement elle a foncé.
Il y a un chat aussi, il y a le chat Kiki. C'est Neko.
Neko.
Ouais, c'est Manu qui l'a attrapé. Donc Miyazaki. Alors c'est un mec qui a débuté sa carrière donc dans le film d'animation, mais hors Ghibli évidemment. Xavier, je pense que tu vas être plus au courant que moi de l'actualité, enfin de la post-actualité de Miyazaki avant Ghibli. On sait surtout qu'il a collaboré au décor du film Horus, le Prince du Soleil, de son collègue Isao Takahata.
Qui en était 58. Hein.
68. Il est sorti en 1968, à la fin des années 60.
Premier dessin animé en couleur et au Japon en long métrage.
Ouais, et c'était un film qui avait été, je crois, développé au sein du studio Toei.
Oui, c'était la Toei.
C'était la ouais. Et ensuite, il a collaboré un peu, enfin, où il a créé même des séries télé. Alors, Heidi, est-ce qu'il a créé ou il a réalisé?
Il a collaboré.
Il a collaboré. Lupin the Third.
Là, il a carrément fait un film en 1979, Le Château de Cagliostro, Cagliostro no Shiro, qui est extrêmement hilarant et qui est le plus réussi justement des films de Lupin the Third, connu en France sous le nom de Edgar le détective cambrioleur. Voilà. À côté de cela, il a créé évidemment la version animalière de Sherlock Holmes.
Oui, ça c'était après, connu. Mais à l'époque, c'était il a après. Aussi créé le Conan, le fils du futur.
Oui, exact.
Pardon. Et ensuite, c'est en 84, juste après Nausicaa, où je pense qu'il a quand même travaillé dessus en même temps. C'est effectivement, tu en parlais, la série TV Sherlock Holmes, avec Moriarty le méchant, les brigands, les élégants. Hein, Sabrina, tu connais le générique par cœur maintenant?
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc justement, on va parler du film Nausicaa qu'il a réalisé aussi à cette époque. Et donc on s'est permis de faire une petite fantaisie avec Xavier. On a classé ces films non pas par ordre chronologique, mais pas suivant l'âge des héroïnes de ces films, car dans chaque film, il y a toujours une petite héroïne, alors plus ou moins âgée. Alors on va pouvoir commencer par mon
Ça, c'est toi qui as découvert qu'il y avait un lien assez étonnant, une causalité.
Oui, après, voilà. Bon, c'est
pour nos amis qui ne sont largués si on n'utilise pas les termes télérabesques.
D'accord. Alors, on peut commencer par mon voisin Totoro. Alors d'abord, avant de commencer par ça, il y a pas mal de mes collègues, ils ont vu pas mal de films déjà. Est-ce qu'on va faire un petit sondage? Quel est votre film de Miyazaki préféré? On fait toujours ça dans les gros dossiers consacrés aux réalisateurs. On a fait avec Carpenter, on a fait avec je sais plus qui aussi. Allez.
Là, on a encore une fois, on n'a pas réfléchi avant. Alors.
Voilà, c'est justement ça qui est bien. Miyazaki. Bon, moi je vote Totoro. Ensuite.
Alors. Moi je voterai Kiki, étonnamment. Kiki.
D'accord.
Étonnamment. Ça a été Nausicaa très longtemps, mais je pense à Kiki finalement.
Moi Totoro.
Totoro aussi. Luce.
Ouais, moi j'en ai vu trop peu pour classer quoi, tu vois.
C'est lequel que t'as vu?
Porco Rosso.
Ah.
C'est pas mal quoi.
Oui.
Avec le double, voilà. Avec Jean Reno au doublage français.
Et Jean-Luc Reichmann.
Exact.
Et Manu.
Totoro et Kiki pour le petit chat noir.
D'accord.
Non, celui-là tu me le rends. C'est pas très radiophonique. Excusez-moi, chers amis auditeurs.
Alors on va faire le petit classement suivant l'âge des héroïnes. Totoro, mon voisin Totoro, c'est la petite May. La petite May qui a quel âge? À peu près 4 ans, peut-être?
Oui, entre oui. 4 et 5 ans.
Ouais. Oui, ah, c'est une spécialité des enfants qui parlent. Qui se fait ramener, vient se faire chercher par le petit Chabus. On a Chihiro aussi.
Petit,
qui a...
Le grand Chabus.
Le grand Chabus, mais petit pour les petits.
Non, il n'y a qu'un seul Chabus. C'est Totoro qui ont une taille différente.
Oui, je dis le petit Chabus pour les petits enfants. Voilà.
Je suis désolé, ami auditeur, il est midi 45, vous êtes sur la famille, vous écoutez une baston en direct.
Une baston sur les peluches. Ensuite, on a Chihiro, le voyage de Chihiro, puisque c'est une gamine qui va faire l'apprentissage de la vie sans ses parents, qui au début un petit enfant blasé, et puis qui va progressivement apprendre à.
C'est une enfant gâtée qui voilà. Est séparée violemment de ses parents et.
Transformée en cochon d'ailleurs.
Voilà, et plonger dans un univers et qui va apprendre littéralement.
Voilà. Kiki la petite sorcière. Histoire la petite sorcière qui quitte son village pour
qui
aller.
À 11 ans, comme sa mère, doit apprendre à s'émanciper.
Voilà, avec voilà.
En partant de son village et partir dans la grande ville.
Voilà, à bord de son balai volant et qui s'étonne que les gens la regardent d'en bas. Ensuite, un peu plus âgé, Flo de Porco Rosso. C'est la mécanicienne qui va lui bricoler.
Elle a 15-16 ans, là.
Ouais. Et qui
elle
va.
Elle est déjà presque adulte.
Oui, qui va tomber amoureuse un petit peu quand même de Porco Rosso, même si c'est un cochon. Nausicaa, qui est sensiblement le même âge, mais on peut là quand même la classer un peu plus âgée, on va dire. Nausicaa de la Vallée du Vent, qui est la princesse du village dont on parlera tout à l'heure. Le château dans le ciel, Laputa. Avec la princesse qui tombe littéralement du grand vaisseau volant, on peut aussi la citer un même âge, mais bon voilà, on fait une petite trilogie avec le même âge. On a Princesse Mononoké, effectivement, ensuite, sortie en 97, Princesse Mononoké, la princesse sauvage, qui est avec son loup.
C'est loup,
ouais. Et le château ambulant, c'est la dernière qui se transforme littéralement en grand-mère.
Oui,
et comment elle s'appelle la grand-mère dans Château Ambulant?
Ah!
Voilà! Au lieu de faire des signes cassés!
Et ça a lu le roman en plus!
Voilà, et ça l'a chroniqué en plus! Oh là là! Alors, la carrière voilà, de Miyazaki évidemment.
Il y a une chose à signaler aussi, c'est que c'est pas un hasard si on a chroniqué de plus jeune vers plus vieux dans les héroïnes, puisque c'est toi qui as fait cette remarque, c'est que le thème est de plus en plus grave et le destin est de plus en plus tragique.
Ah oui, puisque même dans le château ambulant, on peut vraiment parler d'un remake du Blitz anglais sous Londres, puisque c'était le bouquin à l'origine qui était comme ça, avec vraiment une période de guerre encore plus violente que les autres, hein, puisqu'avant c'était médiéval, là c'est vraiment les bombardements, voilà, ça devient beaucoup plus grave. Et voilà, c'est une façon de Miyazaki... voilà, le point négatif,
c'est vrai que tous les personnages, je veux dire, Nausicaa... Elle commence à tuer. Le château dans le ciel, ça passe encore. Mais Mononoké, elle tue et de manière absolument aveugle.
Oui, oui, oui.
Et bon, voilà quoi. Dans le château ambulant, là, on a vraiment du massacre pur et dur.
Miyazaki, on peut pas parler de Miyazaki sans parler de son collègue Takahata et surtout du studio Ghibli qu'il a fondé en 85, juste après la sortie de Nausicaa.
Bah oui, puisque c'était la mise de fond, c'était les bénéfices de Nausicaa.
Et c'était surtout fondé par l'éditeur de la manga. L'éditeur de la manga Nausicaa qu'il a créé parallèlement au c'est Tokuma Shoten qu'il a créé parallèlement au film, et je crois d'ailleurs qu'il a terminé la manga ensuite après le film.
Après le film, il a terminé la manga en 90, assez tardivement. assez tardivement.
Et d'ailleurs, on le voit dans les notes d'intention, il dit « Bon, j'ai abandonné un manga par manque de talent. » quel comique. Et donc voilà, Studio Ghibli, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Studio Ghibli qui a produit en même temps quand il a été lancé en 88. Il a produit en même temps Totoro et le Tombeau des Lucioles.
Qui sont sortis en même temps, qui ont été diffusés dans la même séance au cinéma. Il y a quand même une différence entre les deux.
Oui, oui.
Qui est assez flagrante.
On peut pas dire, on peut pas imaginer un film plus antinomique que les que ces deux-là.
Je pense que ça a été fait exprès aussi. Hein.
Oui, ils ont joué tout là-dessus d'ailleurs. Et justement, le fait qu'ils aient produit deux films en même temps ont entraîné des retards. Et c'est pour ça que les films n'ont pas tant marché que ça quand ils sont sortis. C'est que ils ont loupé la saison estivale, qui est la période des blockbusters, et ils ont loupé un peu justement le public qui se précipitait en masse dans les salles à l'été. Mais ils ont été sauvés bizarrement 2 ans plus tard par le fait qu'il y ait un fabricant de jouets, de peluches, qui se soit attaché avec frénésie aux droits pour acheter les droits du film Totoro.
Les peluches sont d'extrême qualité. Tous les produits siglés officiels Ghibli, vous pouvez y aller, vous pouvez donner le chabus aux gamins. Il y a juste une faiblesse sur le mien, mais faut la trouver. Ah. C'est-à-dire, on peut y aller, quoi. Les souris avec les yeux rouges, hein, tu peux y aller sur arrachage, tout ça. Et c'est pas si cher, d'ailleurs. En import, je veux dire, sur place.
Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu rapidement sur un peu la carrière de Miyazaki. On n'a pas souligné que il a collaboré essentiellement avec le compositeur Joe Hisashi, qui est aussi le compositeur attitré de Takeshi Kitano,
et dont vous pouvez et tout le reste.
Voilà, et dont vous pouvez entendre un exemple, qui est Mononoke.
Et bien vu. Et sinon, ben,
c'est le thème principal d'ailleurs.
C'est le thème du générique,
oui.
De fin.
Oui.
Et sinon, Ghibli aussi a monté depuis 5 ans. Il a créé un musée écologique autour de ses personnages. Ça fait 5 ans exactement qu'il a été ouvert, dans lequel il est assez fier justement de limiter le nombre d'entrées et d'essayer de sensibiliser les enfants à la nature via ses personnages et tout le reste. Qui, à ce qui paraît, il faut réserver largement à l'avance pour pouvoir y accéder, oui. Parce qu'il est très populaire.
Exactement. Et puis d'ailleurs, je vais sécher Xavier là, parce que est-ce que tu sais d'où vient la signification du mot Ghibli? Est-ce que quelqu'un le sait ici?
Je crois qu'il y a une faute d'orthographe dans l'affaire.
Alors elle Sabrina, tu ne comptes pas, car tu as lu le même texte qui a servi à préparer ma chronique. Donc tu vas te taire pour l'instant. Bon allez,
c'est... Comment? Vas-y, tu sais.
Ben, on le sait.
Oui, vas-y.
Ça vient d'un moteur.
Pas exactement. Ça vient effectivement du milieu de l'aviation. Et c'est un terme italien qui signifie vent chaud soufflant sur le désert de Sahara, qui était utilisé par les Italiens pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Moi, c'était les chasseurs italiens pour, c'était leur code. Pour les repérer, Voilà,
et il faut savoir que le père de Miyazaki fabriquait les hélices pour les Zero, les avions Zero japonais.
Ouais, les Mitsubishi Zero, ouais. Là, ceux qui faisaient les...
Voilà, mais Miyazaki dit que ça ne vient pas du métier de son père, son passion pour l'aviation, mais sa passion pour Jules Verne.
Et c'est clair qu'il donne énormément de références à Jules Verne, certaines tout à fait explicites dans Kiki, d'autres
même pour
moins
Corosso.
Évidentes dans... oui, pour Corosso, oui, exactement. D'autres moins évidentes, mais on les retrouve quand même dans Le Château dans le Ciel et Le Château ambulant un petit peu.
Mmh. Bon, il y a voilà. Toujours de toute façon des engins volants, à part dans Totoro, mais bon, Totoro, il vole. Voilà. Alors, ben, on va vous proposer de faire la chronique de Nausicaa maintenant, le film qui est sorti. Est-ce que vous voulez faire une petite pause en écoutant la musique de Joe Hisashi en attendant? Allez. tout à l'heure on parlait des Chabus, alors avant de parler de Nausicaa, on nous a fait une réflexion pertinente hors antenne. Donc Manu, je t'invite à t'exprimer en direct pour dire apporter des précisions sur le Chabus.
Eh bien en fait très rapidement pour clore au débat sur les grands et petits Chabus de tout à l'heure, en fait il y a bien un petit Chabus monoplace qui a été vu dans un court-métrage diffusé au Musée Ghibli.
D'accord, parce que voilà. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, effectivement, on parle du Chabus depuis tout à l'heure, et ceux qui n'ont pas vu, malheureusement, Totoro, il s'agit d'un bus, en fait, qui est un chat géant, un chat en peluche, où les enfants peuvent aller à visiter pour le studio.
Un chat qui bus, voilà.
Je relance peut-être l'intro, oui.
Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, il y a le fond de Nausicaa qui défile derrière, donc on va parler de Nausicaa. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est inspiré de la manga qu'a créé Miyazaki, qu'il a terminé bien après le film. Et on va parler du résumé. Alors, j'ai fait un résumé et je vais essayer de le retrouver. Voilà. Alors. Après que la civilisation des hommes ait été détruite par des guerriers géants, des forêts toxiques se sont développées, rendant certaines parties du territoire irrespirables. À la périphérie de cette zone vit un village paisible, dans la vallée du vent. Cependant, les deux royaumes voisins, Pégité et Tolmec, ces deux royaumes se livrent une guerre sans merci, l'un tentant de ressusciter un guerrier géant pour se défendre et pour effectivement se défendre contre la forêt toxique, et l'autre utilisant la colère des animaux qu'il manipule pour neutraliser leur ennemi. Et ça fait une course à l'armement en quelque sorte assez ridicule. Alors ce film est sorti en 84, il sort en version complète aujourd'hui, car il faut savoir qu'il était sorti en France dans une version amputée qui s'appelait, Xavier,
Zendra, princesse des étoiles. Je les ai cherchés longtemps, les étoiles.
Zendra, princesse des étoiles, amputée d'une demi-heure.
Oui, à peu près, puisque c'est la grande manie américaine. Si c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Et le film originel fait, si je ne me trompe, je l'ai noté dans mon planning. Le film dure 116 minutes et en fait, il en réduit à moins de 90 minutes. Donc, ploup.
Oui, surtout qu'on peut pas dire que le film qu'on peut voir en ce moment soit trop long. Il y a pas une scène à enlever quand même. Parce que c'est quand même assez complexe et dense, et si t'enlèves un truc, tu perds déjà soit des explications, soit des nuances,
Rapidement, les scènes coupées dans la version internationale, c'était la scène de début quand elle se bat face aux insectes. Il y a la scène en souterrain quand elle élève les champignons.
Ah oui.
Et qu'on le découvre. Et tu as pas mal de scènes de combat et la scène du crash avec la princesse qui meurt.
D'accord. Voilà. C'est pas la princesse Nausicaa qui meurt, attention, on rassure.
Ah, peut-être. Spoiler.
Oui, bon, il y a une autre personne qui meurt, voilà. C'est pas... Alors, bon, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire du film ? On peut dire que c'est quand même le film le plus orienté SF de la carrière de Miyazaki, puisque ça se déroule clairement dans un univers post-apocalyptique. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu le... Pas Arthur et les Minimoys, non. Un autre film de Besson.
Conan,
le fils du futur. Ça m'a rappelé le dernier combat, avec les scènes dans le désert au début, avec quasiment aucune musique derrière, aucun dialogue d'ailleurs.
Ouais.
Et ça m'a aussi rappelé, plus proche de nous, le début de Tatooine, quoi. C'est l'univers désert de Tatooine. Pour ça m'a rappelé pas mal de l'univers SF. Alors Sabrina fait des gros yeux, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure? Il fait que des...
Non, j'ai compris Tatooine, mais...
Tu dis que c'est pas très pertinent la comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on...
Du sport, prends son appareil photo, là, ça devient comique.
Le film a beaucoup vieilli quand même, au niveau des dessins et surtout au niveau de la musique. Alors, même si Joe Hisaishi a fait des musiques planantes au piano, ou même celle qu'on est en train d'entendre derrière, avec une
réinterprétation pour la ressortie.
Voilà, et une mélodie qui n'a pas vieilli d'un pouce, on peut quand même dire que les musiques qu'il a composées pour les séquences d'action sont quand même très orientées années 80, donc ça passe un peu moins aujourd'hui. Et justement, au niveau du trait, même si c'est simplifié, ça a quand même un certain charme aujourd'hui. Et puis franchement, les scènes dans le désert ou les scènes vraiment dans le planeur n'ont pas besoin d'être beaucoup plus élaborées, beaucoup plus techniques. Franchement, le dessin minimaliste convient très bien à ce genre de scène. Les qualités du film, la mise en scène, franchement, même pour l'époque limitée, on parlait des séquences dans le planeur, c'est vraiment une poésie absolument grandiose. Les scènes dans le désert aussi, on en a parlé, puisque c'est quand même des scènes assez atypiques dans l'univers de Miyazaki, puisque dans l'univers de ses films habituels, ceux qu'on connaît avant d'avoir vu Nausicaa, il y a surtout des univers dans la forêt, dans des cités ou dans des décors en bois, dans des maisons. Le désert, je ne pense pas qu'il ait réutilisé ce genre de décor pour la suite. On parle de ça parce que Miyazaki c'est quelqu'un quand même qui recycle et renouvelle ces décors, ces thèmes centraux assez régulièrement dans tous ses films. On peut voir toujours une trame ou un message qui perdure à chaque fois. Mmh. Et ça, justement, il y a quelques traits quelques visuels qu'on n'a pas retrouvés par la suite.
Oui.
Je laisse passer le top. Et pour moi, franchement, la scène qui m'a le plus frappé, c'est une scène vers la fin, en fait. C'est le raid nocturne des Omu. Parce que les Omu, c'est des créatures qui sont nées de la pollution et qui sont un peu comme des vers. D'ailleurs, c'était un clin d'œil, me semble, à Frank Herbert. Avec le raid des Omu.
Sont pas des vers, ce sont des nématodes.
Des nématodes, d'accord.
Ils ont une carapace.
Oui, c'est l'étudiant.
Non, mais Thomas, il a du mal avec les vers.
Oui,
les...
bon, je sais, j'ai fait bio.
Étudiant en bio. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire sur le film d'ailleurs? Au lieu de faire des mouvements de sourcils derrière, hors micro. Vas-y, mouille-toi un peu, toi, tiens.
D'accord. Moi, je m'en lasse pas, moi, de ce genre de film, surtout de Miyazaki. Pour le fait que c'est la totale évasion et on part dans un autre univers. Et justement, on est dans un monde où. L'image, c'est à fond les manettes, à fond les effets spéciaux, tout bien léché.
Avec des plans super coupés.
Super coupés, c'est tout correctement.
Et des caméras.
Voilà, j'insiste sur le fait que c'est correctement et politiquement correct au niveau des dessins. Je parle pour certains dessins animés. Et,
des noms.
Comment ça, non?
Des noms de dessins animés.
Justement, je ne dirai rien là-dessus. Et je vous laisse en juger. Et justement, ça change un petit peu, quoi. C'est justement, on a même si c'est les films de Miyazaki sont sincèrement, puisque je travaille avec des enfants, ne sont pas faits pour les enfants, puisque le propos est vachement adulte. J'insiste quand même pour certains à certains enfants qui le voient ce genre de film. Même Princesse Mononoké. Je dirais à partir de 10 ans qu'ils peuvent les voir, ça c'est tout à fait génial, parce que vu le message porteur, vu notre la génération là qui est en train d'arriver, je veux dire que bon.
D'ailleurs, c'est intéressant que t'en parles, puisque il me semble que tu as montré Chihiro dans une séance.
J'ai montré Chihiro à des enfants à partir de 6 ans. Bon, évidemment, ils n'ont pas compris le propos, je dirais, écologique, mais ils ont quand même saisi le fait que la nature est en danger, que qu'il est possible de la protéger. Donc, je trouve ça c'est pas mal, quoi. Voilà. Et même pour les plus grands, eux, ils ont retenu plus que ça, plus le petit Totoro qui est tout mignon, tout gentil. Je vais même montrer, je crois que j'ai montré un passage de Princesse Mononoké. Et c'est vrai qu'ils ont été un petit peu choqués parce que c'était quand même assez violent. Et ils ont quand même adhéré aux propos.
D'accord. Ben c'est marrant d'ailleurs que tu parles du message écologique dans Chihiro, parce que c'est quand même, on va dire, l'un des films où le message écologique, bizarrement, en fait, est plus mis en retrait. On se concentre surtout sur le voyage initiatique de Chihiro.
Je parlais pour Totoro.
Ah, Totoro, d'accord.
Chihiro, ça c'est surtout pour les grands. C'est le message, ça c'est simplement c'est le fait que faut jamais abandonner.
Oui, qu'il faut sourire et qu'il faut être curieux et comprendre les autres.
Il faut
être curieux,
il faut se battre. Même si la vie est dure, ben, il faut y aller, il faut aller toujours devant.
D'accord. Bon, mais Xavier, un mot à ajouter, puisque Manu, je sais qu'il a pas vu Xavier. Toi,
donc, tout simplement, il y a mon voisin Totoro qui est le plus connu, qui vient de ressortir. Il faut savoir qu'il y a eu une première édition VHS en 97 qui était sortie par Studio Canal, et que depuis les droits sont passés chez Disney. On a attendu très longtemps qu'il y ait une nouvelle version, notamment, enfin une édition DVD. Hein, je remercie pas Franck Priot de m'avoir piqué la VHS. Mais donc elle est sortie cet été justement et ça vaut le coup. Alors, sauf qu'ils ont fait une édition DVD normale, une édition DVD bonus. Les premières éditions DVD bonus de la collection Ghibli étaient superbes. Oui. Et là, c'est de plus en plus simple. C'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est dommage.
Oui, mais en fait, moi aussi, je pensais que, enfin, c'est effectivement, c'est dommage parce que par rapport à Mononoke et Shiro qui avait avec un morceau de pellicule dedans, c'est un énorme boîtier, etc. Là, c'est vrai que l'édition collector, même de Pompoko aussi, qui est sorti quasiment en même temps, je crois. Oui. L'édition collector, c'est qu'est-ce qu'on a ? On a un storyboard animé en intégralité, et puis je pense.
C'est les mêmes bonus qu'il y a sur l'édition japonaise. Hein,
il faut savoir. Karaoké, et puis c'est tout.
Voilà. Et même bonus que l'édition japonaise, il faut le préciser. Voilà. Donc c'est dommage, il faudra attendre peut-être, mais comme c'est distribué par Disney. Il va falloir attendre beaucoup.
Et c'est dommage parce que la personne qui s'occupe de la distrib internationale chez Disney est très 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 concernée. C'est un fan absolu de Ghibli. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir la licence et je crois qu'il est passé depuis par la suite chez NTV, le producteur de Ghibli. Donc voilà.
D'accord. Donc on a parlé de la film de Miyazaki. On vous encourage à aller les voir, même de son collègue Takahata, puisque on peut dire même Takahata vaut le détour.
Mes voisins les deux réalisateurs
Du studio Ghibli. Mes voisins les Yamada, le tombeau des lucioles qui ont garanti ça vous remuer. Pompoko qui est je pense l'œuvre la plus miyazakienne qu'a fait Takahata. Qui est sorti d'ailleurs il y a pas longtemps au cinéma, qui est ressorti.
Ouais.
Et donc voilà, donc Mononoke évidemment on en a parlé. Bon, ça, on va juste préciser que Nausicaa est extrêmement proche de Mononoke. Mononoke est quasiment un remake de Nausicaa d'ailleurs. On retrouve pas mal de personnages et puis d'ailleurs pour préparer cette émission, on vous encourage à aller sur le même site qu'on est allé voir animit.com.
Animint.com et si vous êtes suffisamment anglophone, Nausicaa.net,
oui.
Qui est oui. Le pendant anglophone, mais c'est très centré sur Ghibli par contre.
C'est le site non officiel
qui est devenu quasi officiel puisqu'ils ont ils sont invités maintenant systématiquement pour le moindre film, truc comme ça. Donc voilà.
Pour les amoureux des décors et du tout ce qui a à trait au visuel des films de Miyazaki et de Studio Ghibli, on vous recommande les artbooks de l'artiste Oga Kazuo qui a fait les aquarelles et les dessins préparatifs des décors, qui a d'ailleurs d'après son travail en tête créé les cellulos. On vous encourage aussi à aller fureter dans les magasins de peluches et produits dérivés, tout ce qui est japanime. Donc on vous parlait tout à l'heure des peluches ayant trait au film de Miyazaki, à l'univers de Ghibli, et qui sont vraiment de très bonne qualité. On en a plein, on est envahi sur ce plateau aujourd'hui.
Vous avez aussi les artbooks dans les magasins spécialisés BD des différents films qu'on a parlé
et la bande dessinée qu'il a produit pendant un certain temps qui est sortie chez Glénat en 7 tomes qui est sortie depuis un temps, hein, ça fait 2 ans
oui, et l'intégrale vient de sortir je crois dans un coffret pas mal
oui exact, oui. Toujours chez Glénat donc de Nausicaa de la Vallée du Vent.
Voilà, donc c'était la chronique de Nausicaa, donc le film Nausicaa, la vallée du vent, qui est sorti en 1984 d'Hayao Miyazaki et qui est en principe encore disponible en salle, mais on ne mettrait pas notre main à couper.
C'est dans quelle salle ?
Alors c'est au Gaumont Wilson, uniquement en VF par contre.
Il faut guetter. Mais la VF est pas merdique donc.
Et voilà. Je pense qu'il faut guetter un peu le programme de l'Utopia, je pense qu'il y a des chances qu'il soit là-bas ensuite.
Du sport, il est super tard, il est 13h07, mais je crois que tu vas être bien fier.
Et mes charmes infinis, c'est dur d'être si fainéant. Du sport, bonjour.
Bonjour, bonjour. Avec un morceau bien punk là pour commencer. On va parler de punk un petit peu plus tard parce que bah on est en plein dedans. Hein. C'est tu sais les célébrations, tout ça, on aime bien. Hein, histoire de faire remonter la mayonnaise et de vendre un maximum de produits dérivés, des disques. Des
oui, c'est vrai que le punk.
Que tu veux.
Le punk fête ses 40 ans.
Non, 30.
Non, c'est pas ça. C'est tout à l'heure.
Non, ils disent 30, mais enfin bon, ouais, tu verras un peu plus tard. Avant de parler de télé, ouais, j'ai lu ça. Dans l'IB d'aujourd'hui et puis bon c'est quand même assez gros hein, faut reconnaître. On sait que depuis le début de l'année, grosso modo fin de l'année dernière, il y a des problèmes de pognon très sérieux pour le quotidien Libération. Hein, qui s'est fait racheter par Rothschild, enfin bon,
et qui est sur lequel il y a eu de la démission de son rédacteur en chef, et donc là il y a quatre journalistes piliers.
Ouais, Julie qui est débarquée.
Aubenas
et. Et voilà. Là, ben c'est quand même quatre journalistes qui ont envoyé leur lettre de démission, et pas des moindres quand même. Hein, il y a Dominique Simoneau, Jean Hatzfeld, Antoine Debecq et Florence Aubenas. Aubenas qu'on connaît mieux parce que elle est restée un peu plus longtemps que prévu par là-bas, hein, mais.
Qui sont quatre très grands reporters. Voilà. Et qui sont vraiment qui font du travail de fond en général.
Voilà, c'est ça. Hein. Et ben, qui sont aussi également des fois signataires des éditos. Enfin bon, hein, voilà. Hein, disons, c'est du lourd là. Hein, de toute façon, quoi. Ce sont des gens qui sont pour la plupart à l'IB depuis pas mal de temps, hein, depuis le début des années 80. Mais ça veut dire que c'est pas clair. Du tout en ce moment à l'IB. L'IB qui par ailleurs, je vous en avais parlé, je vous avais montré les premiers exemplaires, c'était avant les vacances, sortait le samedi eh bien le supplément papier qui s'appelait Écran, hein, qui était consacré à tout ce qui était visible sur un écran, que sur la télé, la photo, enfin l'image,
voilà.
On va dire, hein, plus les nouvelles technologies bien entendu. Et comme ça coûte très très cher, hein,
ça a pas été reconduit.
Ils ont été obligés de carrément virer le projet, mais c'est un projet que vous pouvez retrouver sur le site Libération.
.fr,
je sais pas quoi, car il y a la version internet donc de ce supplément de Libé du samedi consacré à l'image qui s'appelle Écran, hein, me semble-t-il. Voilà. De la télé à présent avec quelques petites nouveautés quand même encore. Hein. Ouais, c'est la rentrée à fond les manettes avec des polars français. Ouais, la nouvelle cuvée, hein, parce qu'on commence à en avoir un petit peu marre de la 10e saison de PJ, de la 6e de la Crime ou je sais pas quoi. Non,
et la 74e de Navarro.
Ouais, bon là d'accord. Mais pour les deux autres cités, c'est pas pour dire du mal, parce que bon, dans le fond, c'est vraiment pas mal. Ça tient la route quand même. Là, il s'agit de deux nouveautés, donc l'une en concurrence sérieuse avec la série du mercredi soir sur TF1. Ça va être très dur. Ou alors le match de foot, quand il y a match de foot. Hein, et c'est le cas mercredi avec Lyon-Real de Madrid. Alors tu vois, là, en face, pour tenir le choc, sortir un truc inédit, il faut avoir des couilles. Mais enfin, bon, c'est M6, de toute façon. Ils ont décidé d'attaquer full frontal. Et ils le font avec cette nouvelle série polar français qui s'appelle Alice et Charlie, un couple, il y en a eu pas mal hein, dans l'histoire du polar français ou anglo-saxon, et là un couple donc de flics et fliquettes. Alice c'est Marie-Vin, et Charlie c'est une tête, une bouille que vous connaissez certainement, hein, c'est Edouard Montout, hein, qui joue également au théâtre, qui joue également des second rôles dans les séries et qui a également un excellent second rôle permanent dans la série des films qui ont marché à fond les manettes, hein, les meilleures recettes du cinéma français. Je parlais de la série des taxis, le 1, le 2 et le 3. C'est un collègue du flic Diefenstahl, il fait partie de l'équipe. Et il tourne également le Taxi 4 qui est en cours de tournage en ce moment. Ça se passe mercredi soir, 20h50, donc full frontal contre le match de foot Real contre Lyon, c'est sur M6. Une autre série franco-française qui parle de polar, c'est une série qui s'appelle Homicide, mais Homicide au pluriel, parce que Homicide au singulier, ça a déjà été pris par une excellente série dont je vais reparler un petit peu plus tard. Homicide donc qui démarre sur la case habituelle que France 2 eh bien, a voulu pérenniser, elle l'a fait avec cette grosse innovation. On sait quand étaient sortis les premiers épisodes de PJ, c'était la case du vendredi soir, la case
Vendredi polar.
Vendredi polar qui perdure encore, et puis bon, on n'est pas contre hein, du tout, hein, de toute façon.
Non,
avec,
les séries sont plutôt
avec
sont
Boulevard
plutôt bien,
du Palais, avec La Crime, avec histoire des avocats, je vous rappelle.
Avocat et associé.
Avocat et associé, tout ça. Bon, bah, ça tient la route quand même, hein. C'est pas du, géant,
Non, il y a un bon travail, à l'atelier d'écriture de France 2. De ce côté-là, franchement, on peut que les féliciter.
Au niveau de l'écriture, ça tient la route quand même. Là, c'est une nouvelle série, qui nous raconte, la vie d'une équipe, d'une brigade de policiers ici au 36 quai des Orfèvres. On suit les destins de Carole, joué par Sylvie Hautecoeur, de Nathalie, joué par Léa Bosco, de Marco, joué par Tony Bayarja, et de Djibril, joué par Farid Bentoumi, dans cette nouvelle série qui, ce sont des épisodes de 55 minutes, c'est complètement inédit, ça a été tourné l'année dernière. Le premier épisode, c'est vendredi prochain à 20h50 sur France 2, ça s'appelle « Mort d'un prince charmant ». Dans le cas des séries pas nouvelles, parce que bon bah on les connaît déjà, mais dont les nouvelles saisons démarrent, ça redémarre à fond les manettes avec Desperate Housewives, c'est sur Canal Plus, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, mais c'est pas grave, j'ai surtout oublié de vous parler de la série qui suit juste après sur Canal Plus, donc encodée, la saison 2 de Desperate Housewives. C'est une série complètement inédite et qui a un concept super intéressant, on va dire, hein. C'est une série américaine qui s'appelle Weeds, interprétée par Mary-Louise Parker.
Tu l'écris comment?
Weeds, bah comme les herbes, hein, tu vois, W-E-E-D-S, et ça nous parle bien de l'histoire de cette jeune femme interprétée par Mary-Louise Parker, dont le mari crève d'une crise cardiaque et du jour au lendemain, elle a plus de pognon, c'est lui qui ramenait les sous. Donc pour payer les traites, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, décide de vendre de l'herbe. Voilà, donc avec Mary-Louise Parker, avec Kevin Nealon et avec Elizabeth Perkins, enfin c'est surtout fait pour un petit peu décrire le milieu un petit peu hypocrite dans laquelle baigne une certaine culture américaine, bon, et une certain style de vie américain aussi. Dans le style série, ça redémarre également. Là, c'est également du full frontal. C'est demain soir, hein. Alors, t'as déjà vu dimanche dernier, ils nous ont passé le premier épisode de la saison 6 et tout. Après, l'enterrement. Ouais. C'était assez rigolo. Alors, les bonnes allusions et tout. Puis, alors, George Eads, tu sais, L'Oréal, là, j'ai pas de pellicule.
Non, mais moi, j'étais en train de bricoler, donc j'ai même pas suivi minute, quoi, en tout.
Ouais, mais ça fait rien. L'Oréal, j'ai plus d'adieu aux pellicules, c'est lui qui se fait enterrer, quoi. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il a des pellicules, c'est parce qu'il est resté trop longtemps enterré. Et c'est pour ça qu'il doit faire appel à L'Oréal, tu comprends?
Non, mais je reste à hurler de rire devant les scènes d'hallucination en noir et blanc, où il se fait, autopsier, c'est à hurler de rire, c'est grandiose.
Ouais, ouais, mais le premier épisode de la saison 6, c'était pas mal non plus, hein, l'histoire du bagnole qui traverse un camping-car et tout, qui l'explose carrément, elle explose l'arrivée de gaz et tout, enfin c'est assez rigolo, quoi, c'est pas mal. Là, on nous propose donc demain soir, eh bien, deux nouveaux épisodes de la saison 6. Tout d'abord, petit pousset, un petit moins 10. Parental guidance, parce que bon, on est quand même dimanche soir, faut pas déconner. Mais celui qui vient après le premier épisode des experts, c'est une dent contre elle, un moins 12, donc un peu plus trash, un peu plus rentre dedans quand même, avec entre autres comme guest Reed Diamond qui a joué le rôle d'un détective dans l'excellente série de Barry Levinson et Tom Fontana qui s'appelle Homicide, qui a duré 10 saisons. Reed Diamond, lui, il y est de la saison 5 jusqu'à la saison 8 ou 9, je crois, hein, parce que à un moment donné il dégomme un mec, et puis bon, pour pas être obligé de dénoncer le flic qui a dégommé le parrain de la cité, ben Reed Diamond, il démissionne et il se met à son compte, voilà, et il devient un petit peu trouble. D'ailleurs, Reed Diamond, donc un guest star dans l'épisode des experts demain soir, une dent contre elle aux alentours de 21h40, on va dire. Et c'est suivi TF1 qui fait très fort, donc demain soir à 22h35 par un documentaire qu'on a déjà vu. Et demain soir, eh bien, on sera le 10 septembre, c'est-à-dire la veille du 11 septembre. Et on nous rediffuse donc sur TF1, eh bien, le fameux documentaire, hein, pris sur le vif, hein, New York en septembre, hein, l'histoire de ces deux mecs qui faisaient un tournage sur
les pompiers.
Sur les pompiers.
Deux frères français,
Jules et Gédéon Naudet.
Donc,
on connaît les prénoms, on s'en souvient.
Ouais, y a pas de problème. Et donc, on nous repropose ce documentaire, hein, donc l'intégrale. Bon, ça, c'est poignant, c'est assez ouais, voilà, quoi, hein. Bon, enfin, c'est du déjà vu. Et après, eh bien, on nous propose à 0.35, après ce documentaire déjà vu, on nous propose, eh bien, Jules et Gédéon Naudet qui sont retournés 5 ans après dans la caserne Lucky 7, où ils avaient voulu tourner la vie des pompiers new-yorkais, s'étaient fait embarquer donc dans cette aventure dans cette histoire du 11 septembre, et donc ils sont retournés pour aller voir. Ça passera à 0h35 à la suite donc du New York 11 septembre des même Jules et Gédéon Naudet. En même temps, en face, sur France 2, FBI porté disparu du nouveau avec le démarrage de la saison 4 à la fin de la saison 3. Il y a les deux là, il y a Enrique Murciano et Eric Close et tout qui se font courser grave quoi, genre ils doivent protéger quelqu'un je crois, si je me souviens bien. Et là bon bah on commence alors à leur tirer dessus, genre bon ils sont vraiment dans la merde quoi. Alors comment ça va suivre? Et ben on va le savoir dans le premier épisode de FBI porté disparu. Ils ont décidé de cartonner et d'adopter, j'espère qu'ils vont s'y tenir, une diffusion à l'américaine, hein, c'est-à-dire un seul épisode par semaine, par soir, ça suffit.
Oh la haine.
Et ce qui peut être intéressant et qui peut être gagnant à la longue, à mon avis, hein, c'est de diffuser deux séries haut de gamme comme ça, l'une à la suite de l'autre. C'est le cas de France 2 demain soir avec FBI porté disparu, c'est-à-dire Without a Trace à 20h55, le début de la saison 4, et ensuite à 21h40, le début de la saison 12 de ER, Urgence, mon gars.
Ça existe encore ce truc?
Ouais, existe encore. Et d'ailleurs,
il y a plus personne.
La saison 12 est la dernière en lice. Alors, on y retrouve parmi les personnages dont on a pas oublié la gueule, Goran Višnjić, hein, qui joue le rôle de Luka Kovac, hein. Bon, alors lui, il est mauvais qu'il en peut plus, quoi. Mais enfin, bon, enfin, mauvais dans son rôle, hein, je veux dire, hein, pas l'acteur.
C'est méchant.
Il est heavy quoi comme mec, quoi. C'est pas cool, tu vois quoi. Il est pas comme le docteur Carter, tu vois, Noah Wyle, qui aurait pu être, en fait c'est un faux Noah Wyle n'est pas un des acteurs historiques de la première saison parce qu'il arrivait pas au premier, il était pas là au premier épisode de la première saison de Urgence, hein, donc il est pas considéré comme un des fondateurs comme aurait pu être Suzanne Lewis jusqu'à la saison dernière. Ouais. Mais non, il ne peut pas parce que lui il est apparu durant la saison 1, tu vois, Noah Wyle. Donc ce sera quand même le plus vieux pour 4 épisodes seulement dans cette saison 12. Il y a également parmi Nerningra, mais par contre il y a des invités. Et si vous avez suivi un petit peu la semaine dernière les nominations aux différents Emmy Awards, vous auriez pu remarquer la présence de James Woods qui sera donc invité dans cette saison 12. Il y a également Danny Glover, mon gars, et surtout, alors là surtout, over the top, John Stamos, la fête à la maison, mon gars, et l'ex de Rebecca Romijn. Stamos, voilà.
Et à propos des Emmy Awards, on a trouvé la vidéo d'introduction par Conan O'Brien où d'abord ça commence à la Lost, ensuite il se retrouve dans The Office et toutes les 3-4 séries, je sais plus. Oui, il se retrouve dans 24. Je l'avais mis justement sur le site de l'émission, à l'émission de la semaine dernière justement, on l'a trouvé.
Ouais. Allez, vas-y, passe-nous la musique là vite fait là.
Ouais, on y va.
Ouais.
Ouais.
Ouais, Captain Kirk, mon gars. C'est un morceau de Speed Energy en 1980, je crois. Speed Energy, un groupe à géométrie variable qui s'appelait, selon les morceaux, qui s'appelait également Atlético Speed 80 ou qui s'appelait également Speed Oil. Ils ont eu plusieurs noms, hein, donc, et dont celui-là, Speed Energy. Mais le morceau est hyper connu parce que ça a référence à une des séries cultes qui a bercé notre enfance, à savoir Star Trek, bien entendu. Where's Captain Kirk, c'est le titre du morceau. Où est le Captain Kirk?
Et qui fait
dans au cœur.
Et qui fait que c'est 40 ans maintenant.
Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, en plus
si je me trompe,
pratiquement 40 ans, ouais, c'est ça quoi.
C'est le 17 hein.
Ouais. Alors c'est surtout à la faveur, eh bien justement, je vous disais, les 30 ans du punk, donc il y a plusieurs sorties dont les In Rock qui font un numéro spécial, les 30 ans d'une résurrection culturelle, et donc il y a quand même une couille, c'est avec un CD bonus, c'est 13 trésors cachés du punk. Et alors quand tu prends le disque, je me suis dit, putain, là ouais d'accord, un morceau je connais pas, c'est cool et tout. Bon, tu parles, c'est à part donc ce Atletico Spitz qui est assez difficile à voir, il y a les Olivenstein, c'est pas évident de les choper parce qu'ils ont sorti qu'un disque.
Oui, c'est vrai, ce qu'on a passé tout à l'heure.
Pauline and the Penetration, Penetration, c'est pas évident non plus parce que bon, il y a qu'un disque sorti et vraiment à très peu d'exemplaires, donc à part ça, les autres on les connaît, je veux dire, ils sont sortis sur des disques qui ont été réédités en CD, laisse tomber, c'est pas la peine.
Les Dead Kennedys, Holiday in Cambodia, 999,
attends, laisse tomber quoi. Donc bon, tout ça dans un numéro qui est pas trop mal, assez lisible, donc au demeurant assez facile à lire. Par contre, il y a du côté bouquin un bouquin qui est sorti, un pavé je devrais dire hein, puisqu'il fait presque 700 pages, sur 600 pages, qui s'appelle Please Kill Me, l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs de Lex McNeil et Gillian McCain. Où là ben c'est ce qui est très intéressant, c'est que tu n'as que des interviews, des extraits d'interviews, d'entretiens et tout. C'est que les témoignages des gens qui faisaient partie ou qui étaient un petit peu à côté. Il y a pas du tout de parti pris du le mec. Agence juste les morceaux des différentes interviews pour faire coller les histoires. Des fois, les histoires peuvent être les récits sont contradictoires. Hein, les mecs n'ont pas vu la même chose ou des trucs comme ça. C'est assez rigolo. Mais bon, c'est surtout axé sur le punk américain. Bien entendu, avec le début le Velvet, avec ensuite Iggy Pop, ensuite il y a MC5, les New York Dolls, et puis tout le mouvement de New York, hein, avec Blondie, les Ramones, le CBGB.
T'en as parlé avec une immense passion quand même.
On commence à lire le bouquin, on rentre dedans, on commence à rentrer dans l'histoire et tout. C'est plus ou moins c'est assez chronologique de toute façon. Hein. Mais ça se lit vraiment assez facilement. Allez, je vous ai choisi vite fait deux petits extraits comme ça. C'est tout d'abord Iggy Pop qui disait: moi je suis allé les voir dans le gymnase, c'était un concert pour le bal de fin d'année de tous ces gros balourds machos américains et leur nana. Ils étaient venus pour voir le groupe qui avait fait Light My Fire. Tout avait l'air décrépit, dégoûtant, sans rythme. Ils jouaient le riff d'intro de Soul Kitchen en boucle en attendant l'arrivée en scène du chanteur. C'est un son abominable, pire qu'un truc de tantouze, un truc de vieille tantouze. Morrison avait des grands yeux presque tout noirs, c'est parce que ses pupilles étaient dilatées au maximum. C'était donc évident qu'il avait pris quelque chose, à moins qu'il était juste c'était exalté. Ouais, mon œil. Et à la fin, il écarte. C'est là que je me suis dit, regarde comme ils sont minables, et c'est eux qui sont numéro un dans le pays. Si ce type peut y arriver, je peux y arriver. Il faut que j'y arrive maintenant, je peux pas attendre. Ou un autre extrait assez rigolo, avec par exemple Didi Ramone qui raconte leur première tournée, la tournée des Ramones en Angleterre. Il dit, les Ramones mettaient toujours quelques gouttes de pisse dans les boissons qu'ils offraient à leurs invités pour rigoler. Quand Johnny Rotten est venu voir les Ramones à la Rondons, il a demandé, Johnny Rotten a dit qu'il n'y avait pas de problème, tu peux venir. Il lui a serré la main, lui a tapé dans le dos, il lui a proposé une bière. Johnny Rotten l'a prise et l'a descendu cul sec. Bon, il y a que des trucs comme ça, ça raconte surtout vachement beaucoup de dope, il y a eu beaucoup de dope dans ce milieu-là. Avec quelques exceptions quand même, Patti Smith, hein. Bah ouais, il faut le noter quand même.
Qui était plutôt clean.
Hein. Ouais, plutôt clean, bah c'est parce qu'elle supportait pas en fait.
Oui, tout à fait.
Ça la mettait dans des états pas possibles, donc c'est pour ça qu'elle préférait en prendre. Tout ça dans ce bouquin qui s'appelle Please Kill Me, c'est sorti dans cette excellente collection, cette maison d'édition qui s'appelle les éditions Alia, où ils ont sorti plein de bouquins excellents sur la musique, le basse culture de Lloyd Bradley. Il y a également le Sweet Soul Music de Peter Guralnick, les Grail Marcus, tous les Nick Tosh dont je les ai parlé. C'est tout sorti dans cette même collection, mais celui-là, Please Kill Me. La version originale a été sortie en 96. Il n'y avait pas de version française. C'est la première version française, donc agrémentée de quelques petits ajouts, on va dire. Et en fait, c'est une quête qui va du début de la fondation du magazine américain qui s'appelait Punk, qui est sorti dans les années 75, et donc c'est la somme de toutes les interviews, de tout ce qui a été fait comme entretien et repiqué dans des magazines, des trucs comme ça, de 75 jusqu'à 94, donc qui est compilé dans le bouquin avec les souvenirs, bien entendu, de ceux qui sont pas morts. Please Kill Me, donc excellent bouquin à vous procurer de toute urgence. Voilà pour les coupons. On termine avec vite fait une série de films, et là c'est sur TPS Cinéculte qui vous propose toute la semaine, tous les soirs de la semaine, les films de Blaxploitation.
Ouais,
avec lundi TPS Cinéculte à 20h45, Truck Turner, un film de Jonathan Kaplan en 74, avec Isaac Hayes et Yaphet Kotto. Isaac Hayes, c'est le scientologue, Et Yaphet Kotto, c'est le justement le patron de la brigade d'homicide dans la série Homicide, le gros black là qui est il est black noir noir de chez noir, tu vois, et puis il dit qu'il est sicilien quoi. Il joue le rôle, hein, c'est pas des conneries hein, dans la série Homicide, Yaphet Kotto qui joue également le rôle d'un méchant dans je crois L'homme au pistolet d'or, me semble-t-il. Il y a mardi à 20h45 toujours sur TPS Cinéculte, Massacre de Jim Starrett en 72 avec Jim Brown, avec Stella Stevens, ne regardez pas ce qu'elle vient foutre là, et Rip Torn ainsi que Cameron Mitchell. Et à 22h15, un des gros classiques de la Blaxploitation, Foxy Brown, le film de Jack Hill de 74 avec Pam Grier, et surtout Antonio Fargas, bien avant... Huggy les bons tuyaux, bien entendu. Mercredi à 20h45, Casse dans la ville, un film de Larry Cohen, de 73 avec Fred Williamson, bon ouais, on présente plus Fred Williamson, Larry Cohen qui a fait également un peu plus tard, qui s'est tourné dans la production, dans la réalisation de films de série B ou série Z, plutôt dans genre science-fiction, enfin de gros trucs bien nazouilles mais bien rigolo quand même. La preuve, c'est The Stuff, un film qu'il a réalisé en 85 et qui est diffusé par CineFX mardi prochain à 21h avec Michael Moriarty, avec Paul Sorvino hein, dans le film, hein, deux des piliers de ce qui allait devenir New York District 5 ou 6 ans après, donc qui se retrouvait à jouer dans des nanars tels que The Stuff, orchestré par Larry Cohen. Larry Cohen qui a fait pas mal de films de Blaxploitation. Jeudi, on nous en propose un autre à 20h45, c'est Black César, le parrain de Harlem, un film de 73 également de Larry Cohen avec encore Fred Williamson et Gloria Hendry. Et à 22h20, eh bien, rediffusion jeudi prochain de Truck Turner, le film avec Isaac Hayes et Yaphet Kotto. Entre autres, vendredi, ça se termine à 22h35, cette semaine Blaxploitation sur TPS Cinéculte, avec Black Mama, White Mama, qui est pas vraiment un Blaxploitation, vu que c'est
c'est plutôt...
Coproduction philippine-américaine, tu vois, surtout parce qu'il y a pas de rire dedans.
Voilà.
C'est un film de prison.
Une blanche femme qui s'évade dans une île des Caraïbes.
Voilà, deux nanas qui s'évadent de prison, et puis bon, elles sont enchaînées, elles doivent être l'une collée à l'autre, tu vois.
Et elles s'aiment pas.
Voilà, elles s'aiment pas, c'est normal, hein. C'est comme, un petit peu comme le film de Arthur Penn, La Poursuite Impitoyable, où le truc où ils étaient tous les deux, il y avait Robert Redford et puis le Black, c'est je crois Sidney Poitier me semble-t-il, les deux ils sont attachés et puis bon ok, ils s'aiment pas au départ mais bon ils sont obligés de cohabiter. Là c'est pareil sauf que c'est mieux parce qu'il y a Pam Grier et Margaret Markov, donc ouais c'est quand même mieux que Robert Redford, hein, faut pas déconner quoi.
Et d'ailleurs tant que tu parles des films olé olé, il faut savoir aussi que HK Vidéo, bah, ça a rien à voir mais j'en profite quand même, vient de sortir une collection de catégorie 3, ce sont ces films censurés à Hong Kong parce qu'ils sont moralement trop violents ou trop gore ou trop hardos niveau porno, et il y a une série, une collection de HK qui a même pas mis le logo HK dessus parce qu'ils disent nous on édite des films classe, alors ils sont derrière mais ça s'appelle pas comme ça, et t'as des films catégorie 3 comme Ebola Syndrome ou plein de trucs hardos comme ça, avec des kills, des mots kills dans tous les films, dans tous les titres presque. J'ai commencé à avoir quelques chroniques, ça a l'air assez costaud, ouais. Donc j'espère vous en parler bientôt, et en plus je crois qu'ils sont pas trop chers, 12€ je pense.
C'était le supplément week-end du samedi 9 septembre 2006. La semaine prochaine, nous sommes en direct du
Salon de Ramonville.
19e festival de rue de Ramonville avec probablement des artistes. J'espère qu'il fera beau, donc on en profitera, on sera dehors, venez, vous êtes conviés, vous allez voir, il y a vraiment des spectacles de fous, c'est ce que l'on a vu. Mais sinon, supplément week-end se termine. Et qu'avez-vous manqué depuis le début de l'émission ?
Alors depuis le début de l'émission, nous avons eu des invités en pagaille. On remercie d'ailleurs Manu et Sabrina d'être venus nous rendre visite. On a eu du Miyazaki, des batailles de peluche et de la BD sur l'homme d'acier. Voilà, avec des nombreuses photos qui ont été faites, vous avez dû entendre les flashs, vous les retrouverez sur le site de l'émission.
www.daskritch.net ou sinon sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Sachez que sinon aux arènes romaines de Toulouse Purpan aujourd'hui et demain, et ben il y a la Combine à son. C'est un festival de musique amateur. Ah bon ? Ah. Samedi, Jim et Arnaud Bouillon, Gilemon, Guillaume, Pickup, Green Alive et Skamikaze. Donc, c'est plutôt rock. Et sinon, de la techno hardcore. Boum, boum, boum. Samedi 9, Carnage et Déprave Amco. Infoline, trop long à expliquer. Donc, il va falloir écouter Radio FMR pour en savoir plus. Éjecter mes CD. Du sport prend la suite. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, à plus. Bye. Et de suite, c'est du sport qui prend l'antenne jusqu'à 15h. Ah, see you. Ciao.